Bon, on continue notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus à la deuxième épître de Pierre. Alors, dans notre étude de la deuxième épître de Pierre, nous allons examiner les points suivants. L'arrière-plan, donc l'auteur, les destinataires, le lieu et la date de composition du livre. Le contenu, son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, ainsi que les plans du livre et quelques observations. Alors, on va commencer par le premier point, l'arrière-plan de la deuxième épître de Pierre, son auteur. L'auteur affirme être Simon-Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il dit que le Seigneur lui a annoncé qu'il mourrait subitement, verset 14. Il a été témoin de la transfiguration et a entendu la venue, la voix venue du ciel, excusez-moi. Il a entendu la voix venue du ciel et il rappelle à ses correspondants une première lettre et il appelle Paul son frère bien-aimé. Les destinataires. Contrairement à 1 Pierre, verset 1, cette lettre ne nomme pas ses destinataires. Les églises auxquelles elle fut adressée comptaient sans doute à la fois d'anciens juifs s'agit-il des mêmes destinataires que ceux de 1 Pierre? En tout cas, il connaît personnellement ses correspondants. L'autre, le lieu, la date de composition, plusieurs commentateurs croient que la lettre fut écrite de Rome vers 64 à 66 après Jésus-Christ. Le deuxième point qu'on va regarder, le contenu de la deuxième épître de Pierre. L'épître est structurée autour de trois thèmes. Le premier, c'est celui de la vie chrétienne. La vocation et les privilèges du chrétien doivent aller de pair avec sa croissance dans la sainteté. Dieu nous a donné tout par grâce. Ce don nous oblige à faire de notre côté tous nos efforts pour être à la hauteur de cette noble vocation et répondre à ce que Dieu attend de nous. En nous appuyant sur la fidèle parole apostolique et prophétique. La mention de la vraie prophétie, dans le chapitre 1, les versets 19 à 21, amène l'auteur à dénoncer la fausse prophétie, dans le chapitre 2. Deuxième thème, celui des faux docteurs. Les faux docteurs représentent un danger réel pour les chrétiens. Pierre décrit surtout leur comportement moral qui prouve qu'ils ne sont pas dans la vérité, mais esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Cette ruine les atteindra d'une manière soudaine lorsque le Seigneur reviendra. Chapitre 3. Troisième thème, celui du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, dont la certitude est confirmée par l'exemple du déluge, nous oblige à vivre dans la sainteté et l'attente active de son retour. Alors, troisième point qu'on va regarder, le but principal de la deuxième épître de Pierre. Pierre se souvient de l'exhortation que le Seigneur lui a laissée avant de partir, d'être un berger pour ses brebis. Dans cette lettre, il s'acquitte de cette responsabilité en montrant aux chrétiens où se trouvent les bons pâturages qui stimuleront leur croissance, dans le chapitre 1. Quels sont les dangers qui les guettent, dans le chapitre 2? Vers quel avenir ils doivent se diriger et comment attendre le retour du Seigneur, dans le chapitre 3? S'ils désirent résister aux assauts des faux docteurs, ils doivent être affermis dans leur foi et leur vie chrétienne. C'est pourquoi Pierre commence par leur tracer un programme qui doit les aider à croître harmonieusement. Ensuite seulement, il dénonce les ajustements des faux docteurs. Contrairement à la situation dans Jude, le danger est encore futur, parce qu'il dit « Il y aura parmi vous de faux docteurs qui induiront des sectes pernicieuses et plusieurs la suivront. » Mais les hérétiques sont déjà agissants dans d'autres églises. Donc, Pierre emploie le présent pour les décrire. Quelles étaient leurs caractéristiques? Les apôtres proclament une vérité reposant sur des faits. Eux, ils suivent des fables habilement conçues. Tout leur enseignement reposait donc sur les spéculations intellectuelles et sur une interprétation arbitraire de l'Écriture. Ils nient la création du monde par la parole de Dieu, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et son retour en gloire. Leur vie immorale est le triste fruit de leurs erreurs doctrinales, à moins qu'ils tordent le sens des Écritures pour suivre leur convoitise. La corruption morale leur sert d'amorce. L'ancien pêcheur n'a pas oublié l'art de prendre des poissons pour attirer les nouveaux convertis qu'ils exploiteront. Bon nombre de ces traits se retrouvent dans le gnosticisme du second siècle. Les mythes et les spéculations philosophiques y foisonnent. L'Écriture est interprétée d'une manière fantaisiste et arbitraire. Elle est supplantée par la voix vivante, c'est-à-dire l'appel des traditions secrètes. Mais comme le fait remarquer Donald Guthrie, le fait de tordre le sens des écrits apostoliques était cause plutôt qu'effet. Mais les tendances qui aboutiront à ces hérésies existaient déjà vers le milieu du 1er siècle. Quatrième point qu'on va regarder, c'est les thèmes et la structure littéraire de 2 Pierre. La deuxième épître de Pierre se divise en 3 parties. La culture du caractère chrétien, dans le chapitre 1. La condamnation des faux enseignants, dans le chapitre 2. Et la confiance dans la seconde venue de Christ, dans le chapitre 3. En même temps qu'ils cultivent leur caractère chrétien, Pierre exhorte ses lecteurs à croître dans la grâce et dans la connaissance de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. En particulier, il insiste sur le côté parfaitement fiable des saintes Écritures. Il décrit le processus humain-divin de l'inspiration de la Bible, quand il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pierre renforce ainsi l'idée de la fiabilité des Écritures en mentionnant les épîtres de Paul dans le chapitre 3. Quand il dit dans le verset 15 et le verset 16, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. La condamnation de Pierre des faux docteurs se base sur le fait qu'ils mènent des vies immorales, que leurs enseignements sont futiles et destructeurs, et que leur jugement et leur destruction par devant Dieu est certain. Le focus de Pierre sur le jour du Seigneur et son jugement avait été apparemment nourri par l'enseignement des faux docteurs que le jugement de Dieu n'arriverait jamais. Aussi, Pierre rassure ses lecteurs et les invite à vivre des vies de sainteté, de persévérance et de croissance. Le cinquième point, c'est les plans de la deuxième épître de Pierre. Alors, comme d'habitude, il y a toujours un plan succinct, donc un plan très résumé de la deuxième épître de Pierre, et il y a aussi un plan détaillé. Alors, comme je le dis à chaque fois, les plans ont été mis par écrit comme cela, de manière à ce que, si quelqu'un veut approfondir l'étude de la deuxième épître de Pierre, il y a vraiment tous les outils nécessaires. Et je ne peux que recommander très fortement de le faire parce que, en le faisant, vous voyez clairement comment Pierre voulait les principaux thèmes que Pierre voulait enseigner et aussi les leçons, les choses qu'il y a à considérer, même aujourd'hui, pour profiter pleinement, théologiquement et pratiquement, de l'étude de cette deuxième étude. Donc, le sixième point, c'est quelques observations sur 2 Pierre. D'abord, il y a l'épître, l'apport de l'épître, qui va comprendre 3 choses. Alors, la seconde épître de Pierre contribue à notre compréhension de la foi de 3 manières en particulier. Premièrement, ces longs discours polémiques contre les enseignements de mensonges nous rappellent combien il est grave de dévier de la foi, que ce soit dans le domaine théologique ou moral. Les faux docteurs particuliers dont parle Pierre s'égarent théologiquement en jetant le doute sur la parousie et le jugement dernier. Leur mode de vie immoral, décrit de façon si pittoresque au chapitre 2, était probablement la conséquence de leur erreur théologique. Pourquoi se soucier de moralité s'il n'y aura jamais de compte à rendre? La deuxième épître, la deuxième de Pierre, semble donc indiquer que l'erreur théologique se traduit rapidement en erreur morale. Dans le même temps, les fortes déclarations de condamnation de Pierre nous rappellent que les erreurs théologiques et morales sont des choses sérieuses. Deuxièmement, 2 Pierre approfondit notre compréhension de l'eschatologie biblique par son enseignement positif concernant le jour du Seigneur, dans le chapitre 3, versets 7 à 13. Le texte regorge de difficultés textuelles, exégétiques et théologiques, mais l'idée principale est bien perceptible. Ce monde est destiné à être détruit par le feu et à être remplacé par un nouveau ciel et une nouvelle terre. La promesse du nouveau ciel et de la nouvelle terre vient d'Ésaïe 65, verset 17, et Ésaïe 66, verset 22, et l'image est également reprise en Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Pierre tient plus probablement l'idée de l'imagerie de l'Ancien Testament, qui associe le feu au jour du jugement. Sauf imagerie qui avait été plus élaborée encore par les apocalypses juives. Certains pensent que la destruction par le feu qu'évoque ce texte est une métaphore du jugement des êtres humains. Mais le monde matériel est au premier plan, les versets 5 à 7, et la mention du ciel et de la terre semble être délibérément choisie pour désigner le monde matériel. Seul le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament évoque si directement les effets cosmiques du jour du Seigneur. La manière dont Pierre envisage le passage de ce monde au nouveau ciel et à la nouvelle terre n'est pas tout à fait claire. Pense-t-il que le nouveau va remplacer l'ancien ou que l'ancien sera transformé en un nouveau? Le langage de destruction des versets 10 à 12 semblerait indiquer la première situation. Mais d'autres textes bibliques semblent parler d'une transformation, dont Matthieu 19, verset 28, Actes 3, verset 21 et Romains chapitre 8, verset 19 à 22. De plus, le langage de la destruction dans la Bible peut faire simplement référence au jugement, sans implication d'annihilation, comme c'est très probablement le cas du verset 7, où Pierre fait référence à la perdition des impies. Le langage utilisé ne permet pas de trancher avec certitude. Il y a probablement à la fois continuité et discontinuité dans le passage du ciel et de la terre présent au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Troisièmement, 2 Pierre met en lumière l'importance de la mémoire dans la vie chrétienne. Pierre affirme avoir écrit ces 2 lettres pour susciter des souvenirs, pour éveiller en vous une claire intelligence. Et le concept de souvenir et son opposé, l'oubli, jouent un rôle clé dans la lettre en particulier, dans la transition qui fait le lien entre l'introduction et le corps de l'écrit, ainsi que dans la conclusion. l'usage de la forme testamentaire n'est certainement pas sans rapport avec cette insistance. Dans ses dernières paroles, Pierre ne met pas en avant de nouveaux enseignements, mais encourage les croyants à se souvenir de l'enseignement qu'ils ont reçu. Cet appel à la mémoire, bien entendu, n'est pas seulement un acte intellectuel, il s'agit d'un acte de volonté visant à imprimer la vérité de Dieu sur le cœur et l'esprit d'une manière qui ne peut qu'avoir des conséquences pratiques. En lieu et place de la nouveauté propagée par les faux docteurs, Pierre affirme l'ancienne vérité de l'enseignement apostolique. Donc, la deuxième idée qu'on va regarder, on vient de voir l'apport de l'épître, on va voir maintenant la valeur actuelle de la deuxième épître de Pierre. Si l'apôtre Pierre a reconnu que les écrits du bien-aimé frère Paul avaient la même autorité que les autres écritures, on peut bien faire un retour, appliquer à cette lettre la déclaration de Paul, comme on lit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » De fait, elle est pleine d'enseignements précieux, articulation de la grâce de l'effort humain, programme de vie chrétienne, valeur et inspiration de l'Ancien Testament, la fin du monde et le retour de Jésus-Christ. Ces enseignements, particulièrement importants à la fin de l'âge apostolique, le sont encore à la fin de l'ère de la chrétienté. La suraccentuation de grâce divine fait oublier que Dieu demande nos efforts. Dans les controverses théologiques de notre époque, notre seul recours est la parole inspirée de Dieu. Au déclin moral ambiant, notre seule réponse est une vie transformée. Aux espoirs chimériques des différents messianismes politiques et philosophiques, nous pouvons opposer l'espérance du retour personnel de Jésus-Christ et d'une nouvelle terre où la justice aura sa demeure. Les avertissements de Pierre n'ont rien perdu de leur actualité. Les descriptions de l'apôtre font apparaître en effet une Église aux traits caractéristiques qui n'a, hélas, que trop d'analogies avec une réalité ecclésiastique dans laquelle nous avons tous notre part. Le relâchement moral est bien souvent le corollaire de l'erreur. La génération d'avant le déluge et les habitants de Sodome et Gomorre trouvent de nombreux disciples parmi les hommes de notre temps. Comme ça dit dans le verset 19, « Ils leur promettent la liberté, mais quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » On se moque de ceux qui prônent la sainteté, de la conduite et de la piété, et qui attendent le retour personnel de Jésus-Christ et l'avènement du jour de Dieu. On démythise la Bible pour suivre des fables habilement conçues. On exalte la connaissance et les conquêtes de la science en oubliant Hiroshima et les menaces que l'utilisation non pacifique des découvertes scientifiques fait peser sur l'humanité. Dans ce contexte, les avertissements de la deuxième lettre de Pierre dirigent notre regard vers le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les savants qui ont participé à l'expérimentation de la bombe H se souviennent de l'angoisse qui a précédé l'expérience. Ils avaient peur que la désintégration des atomes d'hydrogène gagne tous les molécules contenant de l'hydrogène et fasse sauter la planète. Ils ont même tenté l'expérience. Qui sait si un jour, l'homme ne mettra pas lui-même l'étincelle à cette déflagration universelle dont nous parle l'apôtre, lorsque les cieux exploseront dans un tonnerre terrifiant, les atomes du cosmos entier se désintégreront et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Puisque cet univers doit être ainsi détruit, l'apôtre Pierre nous demande de nous efforcer de rester attachés à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée, vivant dans l'attente du jour de Dieu et en même temps travaillant pour en hâter la venue. Si pour certains, la seconde venue de Christ est rangée au nombre des mythes, tout comme la transfiguration et la résurrection, cette épître nous apporte de ces faits une attestation de témoins oculaires. Or, si les événements rapportés par l'Évangile sont des réalités historiques, ce qu'il prédit pour la fin des temps prendront aussi place dans l'histoire. La digue contre la démythisation est l'historicité d'événements dont peuvent témoigner ceux qui ont vu et entendu. Le Christ viendra dans la puissance et la gloire. Une telle phrase est digne de foi parce que l'événement historique de la transfiguration nous garantit que le Christ possède la puissance et la gloire. Plus que tout autre, notre temps a besoin d'entendre le message que nous apporte l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. Plus la corruption prophétisée dans cette lettre se répand et prend des proportions gigantesques, plus le jugement qu'elle annonce se rapproche, plus l'Église chrétienne a des raisons de se cramponner à ce saint document. Les impératifs moraux de l'Évangile ont encore besoin d'être soulignés face au libertinisme éthique et l'espérance eschatologique chrétienne continue à devoir être soutenue face à un scepticisme superficiel. Maintenant, on peut faire une brève comparaison de la première et de la deuxième épître. Alors, là aussi, pour ceux qui téléchargent les enseignements, j'ai bâti un tableau qui fait une comparaison entre un Pierre et deux Pierres. Et les gens pourront utiliser tout cela pour leur étude personnelle. Autre point qu'on va regarder, c'est la contribution théologique de l'Épître. La contribution théologique de l'Épître, on va regarder différentes choses. D'abord, la divinité du Christ. La divinité du Christ, dès le premier verset, Pierre affirme la divinité de Jésus en parlant de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Jésus est Seigneur et Sauveur. Pierre encourage ses lecteurs à progresser dans la connaissance de Jésus, notre Seigneur. Ces affirmations sont d'autant plus remarquables qu'elles émanent de quelqu'un qui a vécu dans l'intimité de Jésus durant son ministère terrestre et non d'un chrétien qui reprend des formules consacrées par un demi-siècle ou plus d'évolution théologique. Autre contribution théologique de l'Épître, l'inspiration et l'autorité des Écritures. L'inspiration et l'autorité des Écritures. La contribution doctrinale la plus importante de deux Pierre, estime Hebert, H-I-E-B-E-R-T, est sa déclaration au sujet de l'origine de la prophétie dans le chapitre 1, les versets 20 et 21. Dans ce passage, l'apôtre affirme l'inspiration divine et la parfaite fiabilité de l'Écriture. Pierre soutient que l'Écriture est la seule source de vérité parce que ses auteurs sont inspirés. Il détourne l'attention de ses auteurs humains pour la porter vers l'inspiration divine. Cependant, ces paroles n'appuient pas une conception mécanique de l'inspiration. L'Esprit a énergisé ou motivé les auteurs humains de sorte que ce qu'ils écrivaient, ce n'était pas leurs idées ou leurs opinions, mais le message de Dieu. Comme Pierre place les lettres de Paul sur le même plan que les écrits inspirés de l'Ancien Testament, elles font donc partie des fondements et des normes de la foi. Parlant de ceux qui ont transmis le message évangélique, Il met l'accent sur le caractère collégial de cette transmission du dépôt sacré par ceux qui ont été témoins oculaires du Fils et qui ont entendu la voix divine. L'Épître insiste sur l'importance et la primauté de l'apostolicité comme norme de vérité. La vérité est en fait un saint commandement donné à l'Église par les apôtres. Pierre rejoint ici Paul, qui lui aussi revendique l'autorité apostolique comme garante de la vérité divine. Cependant, dans la prophétie comme dans les lettres de Paul, il y a des passages difficiles à comprendre, qui ne peuvent être l'objet d'interprétations personnelles, puisque c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'aide de cet esprit est aussi nécessaire pour comprendre la parole inspirée. Et l'autre point qu'on va regarder, c'est le chrétien entre le déjà et le pas encore. Le chrétien vit dans la tension entre le déjà de la possession actuelle de la nature divine, puisqu'il a échappé à la corruption du monde, et le pas encore, qui se traduit pour lui par des efforts à faire pour affermir sa vocation. Plus que tout autre livre du Nouveau Testament, 2 Pierre souligne l'aspect volontariste de la foi, sans doute parce que les hérétiques tiraient de la doctrine de la grâce une morale quiétiste qui faisait trop belle la part de la liberté et de la chair. Parce qu'ils sont élus, les chrétiens sont appelés à tendre toute leur énergie vers la réalisation du programme en 7 points que Pierre leur propose, et qui n'est pas sans analogie avec l'idéal antique que les philosophes stoïciens l'ont décrit. La foi est le point de départ obligatoire de ce parcours. Sans elle, toutes ces vertus sont inaccessibles. Dans cette énumération graduelle des effets de la grâce, conjuguée aux efforts du croyant, on a l'impression que le chrétien authentique a besoin de manifester toutes ses vertus pour être complet, et qu'elles sont toutes des expressions de la dernière, l'amour, l'agapé. L'habitation par le Saint-Esprit des chrétiens ne les dispense pas d'être constamment vigilants et de faire tous leurs efforts pour être dans leur vie concrète ce qu'ils sont déjà en Christ, pur et irréprochable aux yeux de Dieu, et pour progresser sans cesse dans la grâce. Si, dans la première lettre, l'apôtre soulignait la suffisance de la grâce divine, dans la seconde, il insiste sur la responsabilité qui incombe aux chrétiens. Cependant, c'est la justice du Christ qui reste le fondement de notre salut. Pierre répète plusieurs fois que le Christ est notre sauveur. Tout ce qu'il nous faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur nous a été donné, comme il dit dans le verset 3 du chapitre 1. Nous avons été appelés, nous bénéficions des dons les plus précieux et les plus grands que Dieu nous avait promis, de sorte que nous sommes devenus participants de la nature divine. Sans aucun doute, Pierre emploie ici une terminologie hellénistique fortement attestée dans Philon et Joseph. C'est une manière différente d'exprimer l'image paulinienne de la filialité. Mais ce n'est pas en échappant au monde matériel que les chrétiens participent à la nature divine, comme l'enseignaient les philosophes grecs et comme le penseront plus tard les gnostiques, mais parce qu'ils ont fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans le monde et que la grâce de Dieu leur a conféré cette nouvelle nature. Ces différentes vérités qui nous sont présentées dans leur tension dialectique étaient niées par les hérétiques et qui troublaient les destinataires. Ils rejetaient Jésus-Christ, son évangile, méprisaient les autorités, insultaient les êtres célestes, ridiculisaient l'annonce du retour du Christ et du jugement. Ils répudiaient aussi la conduite chrétienne, vivaient dans l'immoralité, étaient esclaves de la corruption et du péché. Autre chose qu'on regarde, l'eschatologie. L'eschatologie, sur le plan de de 2 Pierre donne un enseignement assez détaillé, car l'une des hérésies propagées par les faux docteurs était la négation du retour de Christ. L'apôtre répond à deux questions que le chrétien doit se poser au sujet de la fin du monde. Pourquoi le Seigneur tarde-t-il à revenir? Qu'est-ce qui se passera lors de son retour et après? Les moqueurs tournaient l'espérance des chrétiens en ridicule, prétendant que depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Après avoir réfuté cette affirmation, le déluge a bien détruit le monde antidiluvien, Pierre donne deux explications du retour de la parousie. Premièrement, la souveraineté d'un Dieu qui n'est pas conditionné par nos notions temporelles. Et deuxièmement, sa patience qui veut laisser aux élus le temps de se repentir. Aucun autre livre du Nouveau Testament ne nous donne autant de détails sur la fin de notre univers. Pierre nous révèle que les cieux et la terre seront détruits par le feu et que les éléments, c'est-à-dire, fondront et se désagrégeront. Ce jour de Dieu ou du Seigneur sera aussi le jour du jugement et de la perdition des impies. L'univers actuel sera remplacé par de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice aura sa demeure. Puisque c'est à cause du péché que le monde actuel sera détruit, Pierre en déduit que le chrétien doit mener dès à présent une vie sainte et s'attacher à Dieu, afin que lui soient grandes ouvertes les portes du royaume éternel où seule la justice régnera. Alors, trois applications pour terminer. Première application, nous devons cultiver notre caractère chrétien en croissant dans la grâce. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre victorieusement et pieusement. Cela implique des efforts, comme on lit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 7. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous puissiez devenir participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Deuxième application, implorons le Seigneur de nous protéger contre les faux docteurs en nous donnant le don du discernement et en connaissant en profondeur les Saintes Écritures. Troisième application, maintenons notre absolue confiance dans la deuxième venue du Christ, malgré les moqueries des temps modernes. Que l'Éternel soit adoré, béni et loué éternellement. Amen.
Amen.